Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Nadia de Nanner Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïde, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Dans les derniers épisodes de Nana, nous avons surtout parlé des expériences de femmes nord-africaines et de femmes musulmanes. Dans Nous ne serons plus discrètes avec Faïz Aghen, il était question de la réappropriation de nos corps, qui est un combat éminemment politique. Dans Libre d'être musulmane avec El Kaïmani, nous avons donné la parole à des femmes qui portent le foulard, car aujourd'hui, elles se retrouvent une fois de plus stigmatisées et ostracisées. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des hommes. Car oui, être un homme d'origine nord-africaine n'est pas forcément simple et s'avère être parfois complexe dans notre société. Entre les injonctions à la virilité, les discriminations, les contrôles aux faciès, les stéréotypes, on n'autorise pas toujours ces hommes à être libres, tels qu'ils sont, à nos identités plurielles. Et parce qu'il vaut mieux en rire, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Yacine Bellous. Yacine est un acteur et humoriste français d'origine algérienne. Vous le connaissez peut-être par le Jamel Comedy Club, pour ses rôles dans la série Bref, ou son documentaire « Voulez-vous rire avec moi ce soir ?» disponible sur Netflix. Auteur prolifique, aujourd'hui je l'ai invité à parler d'un sujet dont il parle peu, son histoire et la construction de son identité en tant qu'homme d'origine nord-africaine. Yacine, bienvenue dans Nerner.
Merci de m'inviter, moi je suis très content.
On te connaît pour ta carrière d'humoriste qui maîtrise l'absurde, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet que tu n'abordes pas souvent. C'est ton histoire, tes origines et la construction de ton identité.
Avec plaisir.
Alors comme première question, je voulais te demander, donc, tes parents sont algériens, tu es né en France. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler du rapport que tu entretiens avec ces origines?
Alors, c'est un rapport qui est un peu complexe parce qu'il a évolué au fur et à mesure du temps, en fait, et surtout de la manière que j'avais de le comprendre, étant donné que moi, je suis né en région parisienne, mes parents, eux, sont nés en Algérie, mais mes parents sont nés en Algérie à l'époque où l'Algérie, c'était la France. Et donc, j'en parle dans mon spectacle. Il y a eu comme une partie de notre vie où on se posait pas du tout la question de savoir pourquoi est-ce qu'on avait cette culture, parce qu'on vivait dans notre culture à nous qui était familiale. Puis quand j'ai commencé à aller à Paris, là il a fallu que j'explique cette situation, que j'explique aux gens parce que eux avaient plus de questions sur moi que moi j'avais de questions sur moi. C'est-à-dire que moi cette histoire de mes parents sont nés en Algérie, française, tout ça, c'était pas du tout quelque chose qui revenait dans les conversations, mais il y avait ce truc de on est chez nous en France, il y a pas de problème en fait, parce que même si ils ont fait un voyage d'Alger à Aubervilliers, ce voyage là c'était pas un voyage qui était si inconnu. C'est pas comme si on avait été à Tombouctou ou qu'on avait été je sais pas où moi dans une ville en Louisiane, enfin je sais pas comment te dire, c'est la France et l'Algérie avaient cette relation qui était même complètement géographique vu que c'était un département français. Mais en bougeant, en rencontrant d'autres gens qui étaient d'ailleurs souvent pas d'origine maghrébine, il a fallu que j'explique plus. Et bizarrement, avec cette idée-là en tête, cette idée de « on ne me pose pas de questions en Seine-Saint-Denis, mais on me pose des questions à Paname », eh ben, ça m'a un peu braqué. je me suis un peu braqué sur le côté des origines. C'est-à-dire que je, pour moi, quand on me posait cette question, c'était pour me dire, tiens, bonjour monsieur Yassine, j'ai des clichés dans la tête correspondant aux Marocains, j'ai des clichés dans la tête correspondant aux Tunisiens. J'aimerais savoir de quel pays sont tes parents pour que je puisse ensuite accrocher les clichés et les préjugés que j'ai en fonction d'où tu viens. Parce que pour moi, poser cette question, c'est une fainéantise intellectuelle et c'est de la mauvaise foi parce que ça sous-entend que tu as besoin de savoir d'où je viens pour savoir comment te comporter. Tu ne peux pas te baser sur la façon que j'ai de me comporter immédiatement face à toi en temps réel et que tu as besoin, dans le temps court de tes préjugés, de vite comprendre à qui tu as affaire. Et la curiosité, je ne la crois pas. Ouais, les gens me disent, non, mais c'est de la curiosité. Je suis désolé, je suis un peu braqué sur ça, mais je ne la crois pas. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise, mais c'est parce que j'ai voyagé. Et c'est parce que maintenant, je comprends que la complexité du rapport français, c'est en rapport à la colonisation et aux guerres qu'il y a eu. Et que cette complexité-là, elle n'a pas lieu dans d'autres pays. Et je l'ai compris grâce, en fait, à des Britanniques, en traînant avec des Britanniques, qui ont eux aussi des rapports complexes avec certains pays, et qui ont une bienveillance totale sur l'Algérie. Ils n'ont aucun problème. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais incroyable, le Sahara, mais parle-moi de ça, c'est super cool. Tu vois ce que je veux dire ? Toute cette complexité-là, elle se synthétise en quelques phrases aujourd'hui, mais il m'a fallu 10 ans pour comprendre qu'en fait, l'instinct que j'avais de me braquer, ce n'était pas une peur de mon origine, mais c'était plus, je décelais quelque chose de pas normal dans le fait de tout de suite me demander d'où je venais, vu que je suis né en France.
Et à ton avis, c'est donc complexe d'être un homme d'origine nord-africaine en France ? Pour quelles raisons ? Quels sont les stéréotypes auxquels on t'a associé ?
Par respect pour les femmes d'origine maghrébine, je ne dirais pas que c'est complexe d'être un homme d'origine maghrébine en France, mais il y a des choses qui se passent, il y a des éléments à prendre en compte, tu vois. Moi, je pense qu'on est souvent associé à la violence, à la bestialité. C'est souvent ce qui est représenté, c'est-à-dire à la musculature, à la nervosité. C'est des vraies questions que je me suis posées, que je me pose encore, à savoir que beaucoup, à des moments, enfin, représentaient l'image des Maghrébins comme des rigolos, des, enfin, je sais pas comment dire. Il y a des petits éléments qu'on voit dans les journaux ou dans la télévision. C'est certains aspects du Maghreb qui ont été représentés par des grosses figures comme Jamel Debbouze ou comme Ramzi, que j'adore, hein, qui sont très très drôles et tout ça, il n'y a pas de problème, hein, ils sont hyper marrants. Mais bien qu'eux fassent leur carrière, ils sont une représentation du Maghreb. À un moment donné, on avait Rachid Arab qui était à la télé. Moi, j'adorais voir Rachid Arab, j'étais content parce qu'il était neutre. C'est un arabe neutre qui dit, bah voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, j'aimais bien. Mais... clairement, au fur et à mesure, je me rends compte que les gens ont un fantasme sur le Maghreb. Et ce fantasme-là, c'est un côté un peu bestial, un peu la rue, un peu street, qui est malheureusement quelque chose qui plaît énormément. C'est un peu comme... comparaison, ça va être un peu hasardeux. Mais aux États-Unis, il y a tout un style et une mode et une sorte d'envie de ressembler à l'homme noir américain. L'homme noir américain, comme le disait un célèbre comique aux États-Unis qui s'appelle Paul Mooney, c'est l'homme le plus copié du monde. Parce que tout le monde trouve qu'il est élégant, il a du style, il a du swag. Ils ont une manière de s'habiller, de se comporter qui est séduisante, qui est rebelle. Et on a envie d'avoir cette âme-là. La France a été super influencée par ça. Les gens de banlieue en particulier. Et comme le disait un autre maghrébin, Medine, dans une chanson, la banlieue influence Paris, Paris influence le monde. Et je pense que vraiment, ça nous sert et ça nous dessert. Parce qu'il y a tout un monde qui est fantasmé sur le Maghreb, et quand on ne correspond pas à ce monde-là, on devient questionnable. Et les gens n'ont pas de problème à dire « mais c'est bizarre, moi ils me disent « t'es pas comme les autres Arabes ». Ils me disent « t'es pas comme les autres Arabes », et je dis « mais c'est-à-dire ». Et les gens me disaient souvent « mais c'est lequel ton parent qui est français ?» Je dis « mais aucun des deux ». Ils sont nés dans de la terre battue, en fait, en Algérie. Ils sont arrivés, ils ne parlaient pas français, ils étaient analphabètes. Pourquoi vous me posez ces questions ? Et du coup, ils ne comprennent pas l'agressivité qui peut s'accumuler. Pour eux, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et c'est ça qui crée notre frustration, je pense, parce que je te vois hocher la tête et dire « oui, je comprends, oui, oui ». Donc, excuse-moi.
Moi, on m'a dit, t'es poli pour une arabe. Oh, t'as pas l'accent.
Bah ouais.
Mais
bah
quel
ouais,
accent, hein. En fait, quel accent ? L'accent dont tu parles, c'est l'accent de cité. C'est pas l'accent des personnes d'origine nord-africaine. C'est différent.
Exactement. Tout à fait. Et il n'y a pas d'études et il n'y a pas de véritable façon de penser ça. Mais moi, j'ai l'impression de vivre un rejet parce que je suis maghrébin de la manière dont je le suis. C'est-à-dire que je ne peux pas l'enlever. C'est de l'ADN. C'est moi. Je suis né comme ça. C'est comme ça. C'est mon corps. Hein. Par contre, je ne pense pas être algérien dans le sens où je ne suis pas algérien d'Algérie. Par respect pour les gens qui vivent en Algérie, qui sont nés et qui vivent là-bas, comment dire je suis algérien ? Mais ma famille vient d'Algérie et mes ancêtres sont nés en Algérie et j'en ai ni honte ni fierté parce que c'est quelque chose que je n'ai pas choisi, je n'ai pas créé ça, j'ai fait aucun mouvement physique ou psychologique pour que ça arrive. Et pourtant, ben moi, ça me fait plaisir. Je suis content d'entendre de l'arabe, je suis content d'entendre de la mazire, j'adore... me poser des questions, aller voir mes parents et dire alors, on en parle encore avec ma mère, la tante, pareil qu'elle était chanteuse et tout. Tu vois, ce genre de choses me plaît. Mais par contre, si on me retire mon identité française, mais on m'arrache le cœur, on m'arrache tout. Et c'est quelque chose qu'on fait quand on me demande tu viens d'où ? Je dis mais la putain de ta mère, toi tu viens d'où ? On vient du même coin ? De quoi tu me parles ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est obligatoirement extrêmement agressif. Tu vois, c'est, enfin voilà, je sais pas comment le dire. C'est vraiment un point important. C'est que les gens ne comprennent pas pourquoi on est sur la défensive quand on nous pose ces questions-là. Et en tout cas, pour moi, je vais pas dire on, je vais dire je. Ils ne comprennent pas quand je suis sur la défensive et il m'a fallu un temps fou pour leur expliquer. Et même quand je leur explique, ils pensent que je suis de mauvaise foi parce qu'ils ne le vivent pas.
Mais c'est surtout que avant même de te rencontrer, de rencontrer la personne en face de toi, tu cherches déjà des stéréotypes à lui associer. Donc c'est pour ça, je pense que tu es frustrée et que moi aussi j'ai pu être frustrée dans ma vie. C'est qu'on ne te rencontre pas toi, on ne t'accepte pas toi avec ta complexité et ton identité telle que tu l'as construite.
C'est ça. C'est pour ça que je pense que la curiosité est une mauvaise foi. Quand ils disent non mais j'ai le droit d'être curieux. Mais non, tu n'es pas curieux parce que si tu étais curieux, tu ne poserais pas de questions. Tu découvrirais. Les curieux sont des gens qui découvrent, qui recherchent, qui explorent. Toi, t'es pas curieux, t'es un inspecteur des travaux finis. Tu veux savoir quelle est mon identité sociale pour savoir si tu peux m'accepter ou pas. Si tu vas être, il va falloir que tu me demandes si je mange du porc ou pas. Il va falloir que tu sais pas si tu peux boire ou tu peux pas. Mais fais ta vie, mec ou meuf. Enfin, soit toi, soit il va rien se passer. Il y a pas un arabe qui va arriver qui va taper dans ton verre de bière en disant que t'es un mécréant. C'est dans les films. Même dans les films, il n'y a pas ça. Et un autre truc que j'ai découvert récemment et que je suis vraiment désolé pour les femmes maghrébines, j'aime pas dire ça, mais c'est pour qu'on comprenne bien de qui on parle. Mais je sais qu'elles sont fantasmées énormément en France. Et je ne savais pas, jusqu'à l'année dernière ou l'année d'avant, je pensais pas que les hommes étaient aussi fantasmés. Eh ben, moi, je sais que j'ai découvert, en fait, ça y est, j'ai aussi, un peu aussi, peut-être moins, mais aussi, il y a un fantasme maghrébin, quoi, du gars maghrébin. Mais je l'ai vécu. Donc du coup, c'est la première fois que je dis, alors là, je ne l'ai pas entendu ou je ne l'ai pas lu dans les journaux. C'est une personne qui me l'a dit verbalement. Donc j'ai dit, bah ok, d'accord, ok. Bon, après, je ne l'ai pas jugé. Hein. J'ai dit, bah c'est ton kiff. Hein. Je ne vais pas te king-shamer, mais ok, d'accord, c'est marrant.
Il y a des pages Instagram qui montrent comme ça des captures d'écran de messages sur Grindr et autres qui s'appellent racisé versus Grindr, où tu vois justement des stéréotypes qu'on colle aux hommes d'origine nord-africaine et des fantasmes comme ça.
Ça, c'est incroyable. Ça, c'est... Enfin, je veux dire, je suis étonné parce que je ne le savais pas. Donc, voilà, je le découvre. Et le pire, c'est que je ne suis même pas fâché, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas en énorme colère. Je suis juste en... Pour les hommes, c'est moins violent, j'ai l'impression. Après, je ne me rends pas compte, tu vois. Je ne suis pas... Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est moins hardcore. Que pour les filles et tout, déjà, dire beurette, machin, ça me rend ouf. Si c'est relou, en fait, vous êtes relou. C'est trop long. Ça fait cette situation est trop longue. Changeons de situation.
Stop, arrêtez. Mais pour les hommes, je pense qu'il y a effectivement des injonctions à la virilité et puis des injonctions aussi à avoir une certaine orientation sexuelle, à s'habiller d'une certaine manière. Je pense qu'entre un homme d'origine nord-africaine et être trans, par exemple, ou être homosexuel ou autre, ça doit être extrêmement compliqué pour toutes les injonctions dont on a parlé.
Absolument, j'imagine. Mais je peux que imaginer. Comme je suis pas concerné, je peux pas trop raconter ce que je pourrais imaginer ou dire des choses là-dessus parce que franchement, je pense que c'est vraiment complexe. Mais moi, de mon côté, il y a aussi l'inverse qui existe, c'est-à-dire faire attention à pas m'énerver. Je peux te raconter une anecdote qui est vraie pour te dire, je me suis fait embrouiller dans un avion, mais embrouiller. C'est-à-dire, pour moi, c'est injuste. C'est-à-dire, tu sais, j'ai baissé mon siège, j'étais épuisé. Peu importe la raison, mais je crois que c'est légal de baisser son siège dans un avion pour dormir. Donc je baisse mon siège pour dormir et j'allais vers le Japon. Et en fait, il y a une japonaise derrière qui a trouvé que j'avais baissé trop mon siège. Or, il n'y a pas de... Enfin, tu vois, je ne savais pas, moi. Je ne pensais pas qu'il fallait demander pour baisser son siège. J'ai juste baissé mon siège, je voulais dormir. J'étais, mais mort. Et elle m'a réveillé en mettant des coups de genoux et des patates dans mon siège. Tu vois, tu sais, des coups de poing. Tu vois là où il y a l'écran ? Tu tapes à côté et ça fait des vibrations, tu vois. Donc, je me réveille et je ne sais pas si... Imagine quand tu dors très peu, que tu commences à plonger dans le sommeil profond, tu es réveillé, il y a une sorte d'énervement. Enfin, c'est relou, quoi. Donc, je me suis retourné, j'étais là, et je vois que c'est une fille. Et je fais, mais il y a une sorte, tu sais, elle était frêle, mais extrêmement énervée. Et je dis, mais madame, mais faut pas, qu'est-ce qui se passe? Faut pas taper? Pourquoi vous vous tapez? Parce que dans ma tête, c'est genre, mais vous, c'est du passage à l'acte de violence, en fait. Je suis sidéré. Et elle ne me répond pas, elle ne me regarde pas. Et il y a son mari à côté, qui est un homme blanc, et qui me dit en français, en fait, c'est peut-être la seule chose qu'elle a trouvée pour vous répondre ou pour vous parler ou pour communiquer avec vous. Et moi, je le regarde, je dis, mais j'ai le droit de dormir. Enfin, qu'est-ce qui est... Et donc, je lui parle à elle qui ne me regarde toujours pas. Et je lui dis, excusez-moi si je vous ai dérangé avec mon siège, mais on ne tape pas les gens. On ne met pas des coups. Et en fait, le mec, il m'a vraiment saoulé. J'avais envie de faire un scandale, de l'embrouiller, de l'insulter, parce que c'est extrêmement violent. De mon point de vue, ce que j'ai vécu est violent. Mais j'étais terrifié à l'idée de m'énerver dans un avion parce que j'étais seul, maghrébin, dans un avion. Alors je sais, il y a des gens qui peuvent se dire « mais c'est débile comme façon de penser, pourquoi tu penses comme ça, c'est toi qui te mets des limites et tout ça ». Mais les amis, on a tellement une réputation de fouteur de merde et de violent et de méchant que j'étais dans mon bon droit. Je me suis fait attaquer par une femme de 30 kilos japonaise qui m'a mis des patates.
Ça existe. Je rigole, mais c'est terrible. Hein.
Mais elle m'a pas frappé physiquement, elle a mis des patates dans mon truc, mais ma tête a rebondi. Ma tête a rebondi. C'est pour ça que je me suis réveillé. J'étais épuisé. Je ne pouvais pas résister au sommeil. Je me suis endormi 2 minutes après le décollage. Et son mec m'a envoyé chier comme si j'étais le dernier des clochards. J'ai fermé ma gueule. Et je m'en veux encore aujourd'hui. Ça se reproduirait aujourd'hui, je pense. Je taperais un scandale. Mais dans l'état psychologique de fatigue, d'inquiétude, et de savoir ce que tu représentes, ça, c'est quelque chose qui est différent et qui est le problème de plein de gens. Il y a des gens qui sont obligés d'avoir conscience de ce qu'ils représentent dans la vie. Et il y a des gens qui s'en battent les couilles, ils mettent des patates quand ils sont fâchés.
Les gens privilégiés ont le droit de faire ça, mais nous, malheureusement, effectivement, on a intériorisé comme ça des clichés qu'on a. Et j'imagine déjà les gros titres, si tu avais fait un scandale. Ça aurait été un homme d'origine algérienne fait un scandale dans un avion...
Ou en tout cas, je sais pas ce qui se serait passé, peut-être il se serait rien passé, mais je veux juste te dire que le vrai problème, c'est que je me suis auto-censuré de me défendre alors que j'étais attaqué. Peut-être que j'avais pas le droit de baisser mon siège, mais elle aurait pu me taper l'épaule et dire, hey mec, pardon, mais t'es un peu relou, gars. Pourquoi tu baisses ton siège comme ça? Tu me gênes, je sais pas. Elle aurait pu me parler, mais elle ne m'a pas regardé. Elle a frappé, et quand j'ai dit, pourquoi tu tapes? Son mari m'a dit, c'est comme ça. Je dis, mais gars, la violence! La violence de ouf, vous êtes fous quoi. Mais c'est juste pour dire que cette violence-là, j'ai été effrayé d'y répondre par de l'agressivité aussi. Et souvent dans ma vie, j'ai essayé de faire attention à placer ma colère aux bons endroits et à choisir mes combats parce que de mon point de vue, et ce n'est pas l'extérieur, hein, c'est moi qui me restreint. Et je me dis effectivement, on a cette réputation-là et il faut faire attention.
Mais je comprends tout à fait ce sentiment parce que moi aussi, je me suis souvent dit, faut pas trop faire de bruit, faut être sage, faut montrer une bonne image de soi. Et je pense que c'est ce que mes parents aussi m'ont transmis parce que eux, ils ne sont pas chez eux officiellement, ils ne sont pas français. Donc ils m'ont dit, sois sage à l'école, fais pas de problème. Et je pense que c'est juste la continuité de ça, mais dans la société, quand on est adulte, je pense qu'on a gardé. Je sais pas si tes parents t'ont dit ces choses-là.
C'est exactement la même chose, ouais. Mais je te jure que c'est vraiment ça. Moi, mes parents m'ont vraiment enseigné le fait qu'il fallait absolument ne pas faire de problème. Mais eux avaient essuyé tous les problèmes, en fait. C'est pas arrivé de nulle part. C'est que eux avaient essuyé des tas de soucis, des tas de problèmes. Mes oncles aussi avaient eu des tas de problèmes. Et donc, eux, ils avaient comme, si tu veux, une sorte de... C'est comme si le niveau 1 du jeu, ils l'avaient fait 17 fois. Ils avaient perdu plein de vie. Et là, ils me disent, écoute, mec, nous, on a tenté des trucs. Il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Et en gros, pour que tu t'en sortes bien, faut genre faire des études, rassure-nous. Sois calme, ne fréquente pas des mauvaises personnes, ne te bagarre pas, respecte tout le monde, fais très très attention à ta manière de parler. Et ils m'ont vraiment essayé de m'éduquer, mais pour eux, c'était des bonnes valeurs aussi. Donc, c'était à la fois des bonnes valeurs, mais en même temps, c'était une sorte de « attention, fais très attention ». Il y avait surtout cette crainte de tout, que le monde était un danger. Et je pense que le monde était un danger dans leur conseil et dans leur éducation, parce que dans leur vie réelle, le monde était un danger pour de vrai. C'est des gens qui ont connu des périodes de guerre. Et donc, quand tu vois des militaires avec genre ton village, il y a du fil barbelé, il y a que deux entrées, et que pour aller chercher du lait quand t'as 10 ans, faut que tu passes devant un gars qui a une arme. Mais les gens ne peuvent pas imaginer. Moi, je peux pas imaginer. Et que ma mère, aujourd'hui, elle me raconte ça, mais détente, en disant « Non, mais ça va, c'était comme ça. C'était comme ça. » Parce que quand t'as 10 ans, tu connais pas la vie, quoi. Tous ces éléments-là, c'est de l'histoire familiale qui n'est pas vraiment pris en compte quand on adresse la question de l'immigration ou des gens qui sont en France en étant enfant de colonie ou en étant en rapport avec la colonisation. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas que je suis fils d'immigré, que je ne dis pas que mes parents sont le fruit de l'immigration. Je dis qu'ils sont le fruit de la colonisation. C'est par rapport à ça qu'on a cette connexion avec l'Hexagone. Et c'est pas par rapport à une envie incroyable de voyager. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'aurais préféré qu'ils aillent à Tokyo, tu vois. Mais ils ont choisi Paris parce que ça avait un sens dans l'histoire de leur famille et ça avait un sens dans l'histoire de France. Et nous sommes l'histoire de France.
On a beaucoup parlé de voyages. Ta vie a été rythmée par beaucoup de voyages. Tu les mets d'ailleurs en scène dans ton documentaire « Voulez-vous rire avec moi ce soir ?» qui est un tour du monde du stand-up. De quelle manière le fait d'aller à l'étranger t'a permis d'aborder différemment tes origines et de te construire loin de certains stéréotypes dont on a parlé ?
Bah en fait, ce qui a été génial, c'est que dans mon premier voyage à Montréal, pour la première fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé mes origines et si j'étais algérien, mais il l'a fait avec une attitude qui était complètement différente. C'était les mêmes phrases, mais il avait un énorme banane. Il était hyper content de me rencontrer. Il trouvait mon prénom absolument joli. Et je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est en fonction de comment on perçoit les Maghrébins, on aura des réponses différentes. Il y a des gens qui vont me dire bah ouais, mais peut-être qu'il avait jamais eu de problème avec un Maghrébin. Il y a des gens qui vont me dire bah ouais, mais peut-être que lui, il aime beaucoup les Maghrébins. On sait pas, mais peu importe. Les questions qu'on m'a posées étaient d'une source et d'un point dans l'esprit qui était complètement différent. Et ça se sent quand les gens te parlent. Et puis, j'ai rencontré Eddie Izzard, qui est artiste stand-up très connu, tout ça, et qui m'a proposé d'aller voyager dans plein d'endroits, qui est dans le documentaire. Et que j'aime tellement parce que la vision intellectuelle et humaniste est vraiment très présente dans le stand-up. Eddie fait. Donc la plupart du temps, quand je voyageais avec Eddie, on avait des conversations sur nos parents, nos origines, etc. Et c'était fait à égalité en fait. C'était fait totalement à égalité et l'intérêt était réciproque et égal. Alors que j'ai l'impression que quand je suis en France, on me demande de me parler de la raison pour laquelle je devrais te considérer comme français. Et c'est comme si on me disait ça des fois. Je sais que beaucoup pensaient que c'est de la paranoïa. Mais je suis convaincu qu'il y a un fond, un reste de cette histoire coloniale qui empêche les gens d'être vraiment intellectuellement au même niveau. Parce que quand j'étais dans d'autres pays, quand j'étais en Angleterre, quand j'étais en Afrique du Sud, les gens respectaient ma part d'africanité en me disant « Ah ok, Algérie, moi je viens... » Alors, ils venaient de quel pays ? Je crois que c'est le Zimbabwe. J'ai rencontré des gens du Zimbabwe j'ai rencontré des gens donc, d'Afrique du Sud et d'un autre pays, je ne sais plus lequel. Il y avait trois pays avec qui j'ai pu converser, genre à table, hein, dans l'hôtel, avant d'aller jouer et tout. Et en fait, les gens me parlaient de l'Algérie par rapport au Sahara. Et d'ailleurs, j'ai survolé le Sahara. C'est incroyable. Franchement, pour moi, c'était incroyable. Parce que tu survoles le Sahara, tu t'endors, tu te réveilles, tu survoles toujours le Sahara. C'est géant. C'est un désert, c'est tellement agréable en fait de voir ça que ça fait très peur et en même temps c'est agréable. Donc tous ces éléments-là, désolé hein, je suis bavard, mais tous ces éléments-là ont fait que ma perception, elle s'est agrandie. Parce que j'avais pas que la perception franco-française, j'ai une perception qui venait des États-Unis, une perception qui venait d'Afrique du Sud. En Russie, un ami russe m'a parlé et m'a expliqué qu'en Russie, la charba, c'était un plat national, que tout le monde mangeait de la charba, que c'était normal. Il m'a expliqué qu'en Russie, quand on dit « itch », tu sais, quand on dit Ivanovitch ou Viktorovitch, ça veut dire le fils de Victor, exactement comme, Ben Mohamed, par exemple, le fils de Mohamed. Johnson, c'est le fils de John. Donc, j'ai trouvé des similarités dans les cultures à travers le monde, ce qui m'a un peu juste mis en position de « Ah, ok, donc on n'est pas des oufs, en fait. Génétiquement, on peut dire que l'humanité, ça va, c'est une seule race, on est cool. » Et puis, tous ces éléments superposés m'ont donné l'envie de continuer les voyages. Et puis, quand j'étais en Lituanie, en Estonie, on m'a parlé de révolutions là-bas, qui étaient des révolutions de face à l'URSS. Il y a eu des tas de problèmes entre eux. Donc, c'était passionnant de comprendre qu'il y a des groupes révolutionnaires, il y a des gens qui parlent des mini-langages. L'humanité, c'est plein de petits groupes comme ça, qui sont des tribus, des morceaux de peuple, comme nous, on l'était en Algérie. Avec il y avait beaucoup de tribus en Algérie et qui a été en quelque sorte un peu oublié, cet héritage-là. On n'a pas toutes les informations et c'est très dur d'en trouver et donc on n'a pas d'argument. Moi, mon argument, ça a été de me dire, quand je me présente devant des gens qui ne sont pas français, l'accueil est absolument différent. Et voilà, j'espère que c'est cohérent ce que je dis, mais...
Totalement. Et effectivement, tu te permets d'ouvrir les perspectives justement au monde et pas de les fermer dans le monde franco-français où on s'arrête à une certaine vision de l'homme algérien ou d'origine algérienne. Là, le fait de voyager, tu as vu en fait qu'effectivement, il y avait des liens, des similitudes, des différences et que c'était pas grave et que c'était juste un enrichissement.
Absolument. Et je tiens à insister sur le fait que je pense pas que c'est de la faute des interlocuteurs. Je pense pas que c'est de la faute des personnes qui me posent ces questions du tout. Et je suis pas en colère contre eux. Quand je me braque un peu, quand on me dit c'était de quelle origine, c'est parce que cette question-là, elle fait écho à un rejet et à une sensation de cloisonnement, d'enfermement. Alors que quand j'ai été dans d'autres pays, cette question-là, elle était signe d'échange. Quand je vais au Japon et qu'on me dit Yacine, on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est ? Je parle un japonais. Quand je lui dis que je suis français, personne ne m'a posé de questions sur de oui, t'es de français, mais de où, si tu veux. C'est important pour moi parce que moi, j'aime énormément la France. C'est un pays... Enfin, je suis français et je me considère comme un amoureux vraiment de ce pays-là, dans le sens où j'ai représenté la France dans 18 pays en jouant du stand-up. Artistiquement, quand tu vas dans un club de stand-up à Londres, ou quand tu peux aller dans un club, où est-ce que j'ai été souvent, en Allemagne par exemple, si tu dis mon nom, il y a des chances qu'on sache qu'il y a un Français qui s'appelle Yacine Bellous qui est venu et qui a joué là-bas, qui a performé. Ça, c'est important pour moi parce que, c'est une fierté, quand j'ai joué au Festival d'Édimbourg, j'ai joué au plus gros festival international d'humour, il y a 3000 spectacles là-bas, c'est un spectacle en langue anglaise. J'ai joué dans une petite salle de 50 sièges, aidé, poussé par Eddie Izzard. Mon spectacle s'appelait Made in France. Parce que pour moi, c'était pour dire aux gens, je suis français, mais je suis peut-être pas la version française que vous connaissez, à savoir de Alain Delon, les années 60-70, que les Anglais adorent, tu sais. Ils aiment la nouvelle vague, ils aiment les vieux films et tout ça. Mais le monde a évolué. Aussi bien que l'Angleterre, ce n'est pas chapeau melon et bottes de cuir, ce n'est pas des gens avec des monocles et des hautes formes avec des cannes, ok ? La France a évolué également, donc pour moi c'est une fierté et c'est vraiment un respect de la France, de ses régions, de tout. Moi j'allais en vacances dans le sud, de Agen à Marseille, je connais la France. Et quand j'ai fait la tournée avec le Jamel Comedy Club, avec Dedo, il y a un pote à moi, humoriste. Nous, on est tous les deux de Seine-Saint-Denis. Notre plaisir, c'était de traîner à Strasbourg, à Nantes, partout où on allait pendant que les autres dormaient à l'hôtel. Nous, on allait visiter les villes parce qu'on aime notre pays. Et donc, c'est très important de comprendre que si on râle à des moments pour dire... Des fois, quand vous nous posez des questions sur nos origines, ça nous fait chier. C'est pas parce qu'on est en colère contre la France. C'est parce qu'on est en colère contre l'envie des gens de nous catégoriser immédiatement parce que ça les rassure. Cette colère-là, elle est difficile à faire comprendre aux gens.
Moi, je t'avoue que cette colère et cette frustration que j'ai pu ressentir aussi, c'est parce que j'ai eu l'impression aussi qu'on remettait en question le fait que j'avais le droit d'être française et de vivre ici. On m'a déjà dit « bon, tu viens d'où ?» Donc moi, je disais bêtement la ville où je suis née, donc Avignon. Et ensuite, on me dit « non, mais tu viens d'où ?» Du coup, je disais que j'étais d'origine marocaine. Et plusieurs fois, on m'a dit « mais pourquoi t'es pas au Maroc, du coup ?» Et t'es là, mais la violence, en fait. Moi, je suis d'origine marocaine, mais c'est mes parents qui viennent du Maroc. Moi, je suis née en France.
C'est incroyable.
Et j'ai pas le justifié, en fait. Et effectivement, donc je comprends ta colère et je comprends que les gens, parfois, ne se rendent pas compte parce qu'ils se pense curieux, mais il y a toujours quelque chose derrière. Il te ramène à un pays que tu connais pas forcément et...
Je parle même pas la langue. Hein. Je ne connais rien. Tu me lâches en Algérie, je suis foutu. C'est-à-dire que, en quelque sorte, heureusement, je pense que les gens comprennent que je blague là, mais heureusement, l'Algérie, je pense, j'espère en tout cas, m'accueillerait gentiment en me disant, bah, t'es un touriste français. Et ils auraient bien raison. Ils auraient, bah, t'es un touriste français qui vient rendre visite dans le pays de tes parents. Et moi, je serais très content d'aller jouer là-bas et tout ça, de faire quelque chose là-bas. Mais il y a toujours eu cette question de, les gars, vous me remettez dans un monde politique et géographique qui n'est pas le mien. Parlez-moi de la Seine-Saint-Denis. Alors là, à fond, on discute de tout ce que vous voulez, des mouvements politiques et tout ça. Mais l'Algérie est un pays lointain pour moi. En revanche, je le respecte beaucoup. Mes parents en viennent. Je suis culturellement attaché à ce pays. Je comprends certaines choses de la culture et de la manière d'agir de certaines familles, en tout cas, parce qu'on ne vient pas tous des mêmes coins, tu vois. J'ai beaucoup d'affection pour les Maghrébins que je côtoie, parce que je sais ce qu'ils traversent. En tout cas, quand on en discute, comme là, toi et moi, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on a une conversation verbale. On a des connexions, si tu veux, par nos expériences. Donc, si vous voulez, parlez-moi de ça. Mais à côté de ça, me considérer comme un Algérien, c'est pas vraiment exact. C'est plus complexe que ça. C'est ça, mais c'est pas ça. Et c'est pour ça que je m'amuse beaucoup à crier Algérie ou à dire des aides. Parce que c'est pas... c'est donner le plaisir aux gens, tu vois. Et quand ils en auront marre un jour ou l'autre que les gens crient Algérie, qu'on sorte les drapeaux, qu'il y ait des aides, ils vont dire, bah merci, maintenant on peut sortir les drapeaux français, ça vous a cassé les couilles ? Super ! Maintenant, on arrête avec ça. On est tous d'accord ? En fait, c'est une stratégie magnifique de la part des Algériens, c'est de saturer l'espace médiatique avec des drapeaux algériens pour que les gens ragent et disent, arrêtez avec les drapeaux algériens ! Et qu'à la fin, les Algériens disent, bah voyez qu'on est français ! Bon, bah, on est trop intelligent, on est trop malin.
Et est-ce que dans ton travail, une fois que tu as fait tous ces voyages, tu utilises cet héritage culturel ou les questions d'identité ?
La question sur les questions d'identité, elle est hyper touchy. Et moi-même, j'ai des doutes et j'ai des peurs, tu sais. Je ne sais pas si je suis légitime. C'est des questions que je me pose en permanence parce que justement, bien que je connaisse l'histoire de ma famille, je connais mon parcours, j'ai du mal à me positionner. Dans un sens, en me disant, bah voilà qui je suis. Parce que tout ça est trop compliqué, c'est trop fin. Et j'ai pas envie de faire ça. C'est plus les gens à l'extérieur qui m'ont dit, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? T'es quoi exactement? On n'arrive pas à te comprendre. Et donc, la question d'identité, c'est toujours expliquer d'une manière ou d'une autre que on n'est rien de spécial, en fait. Désolé, les gars, on n'est pas PNL, on n'est pas Zidane, on n'est pas Rachid Arab, je suis pas Ramzi. Je suis Yacine Bellou, je suis un autre gars. Et en fait, là où je trouve que ce que tu fais, c'est formidable, c'est que plus il y aura de représentations différentes, plus peut-être des personnes qui se reconnaissent pas dans Jamel Debbouze, qui se reconnaissent pas dans d'autres gens, se sentiront représentées de façon plus précise. C'est pour ça que moi, dans mon spectacle, j'ai très peu abordé ma famille, parce que j'avais pas envie de faire le sketch de ma mère elle parle mal le français, mon père il m'a mis des coups de tatane, déjà parce que ma mère elle parle mieux le français que moi, elle écrit mieux que moi, elle a fait des études supérieures alors qu'elle arrive en France sans parler la langue, ensuite parce que mon père il me met pas des coups de tatane, il est flippant certes, mais il fait peur, mais si tu veux, j'avais pas ces clichés là et le truc de on est pauvre, eh ben on n'était pas pauvre. Pas de chance, on n'était pas pauvre. Donc moi, à aucun moment, je pouvais dire on est pauvre. Je pouvais utiliser la banlieue, mais j'ai pas voulu instrumentaliser le côté banlieusard parce que j'aime trop la Seine-Saint-Denis. J'avais pas envie de dire je sais pas quoi. Mais en tout cas, j'avais pas envie de parler de ça et j'essayais de me représenter en restant vague et en voyant si ça allait marcher. Et encore une fois, là, c'est une spéculation. Ce que je vais dire n'est qu'une idée. C'est une spéculation. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais malgré tout, j'ai l'impression que ne pas me positionner comme ce qu'on attendait de moi en quelque sorte, ou ce qu'on avait l'habitude de voir, a été des fois quelque chose qui m'a plus desservi que servi parce que les gens s'attendent à quelque chose. À l'époque où je faisais mon spectacle et ça s'appelait Yacine Bellous, au début ça s'appelait Yacine. On m'appelait Yacine dans le Jamel Comedy Club, j'avais juste mon prénom. Et je me suis vraiment dit, mais pourquoi je devrais mettre mon nom de famille, mais j'avais une réticence à mettre mon nom de famille parce que à l'époque il y avait Jamel, il y avait, enfin je sais pas comment dire, Ramzi, il s'appelait Ramzi, il y avait, c'était pas Ramzi Bedia quoi. Et au moment où j'ai mis Yacine Bellou, j'ai dit ah ok, j'ai une identité complète et c'est ma vraie identité. Et donc en m'appelant Yacine Bellou, j'ai dit ok, là je suis vraiment moi. Mais quand les gens venaient voir mon spectacle, c'était très absurde, très les Monty Python, très, et donc ils étaient ben étonnés parce que les spectacles de l'époque, c'était vraiment typiquement des gens qui parlaient de leur famille, de leurs origines, de là où ils venaient. Quand tu étais maghrébin, il fallait expliquer quel type de maghrébin tu étais. Et moi, j'abordais absolument pas cette question-là. Et je crois que j'ai déçu des spectateurs. Mais c'est qu'une hypothèse. Hein, parce qu'ils peut-être s'attendaient à un produit particulier que moi, je donnais à un produit différent.
La génération d'humoristes d'origine nord-africaine a beaucoup servi tout ce que tu dis, toutes ces scènes de « ma maman, elle parle pas français, mon père me tape », etc. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec la diversité qu'il y a chez les humoristes, ça a permis de faire évoluer l'image qu'on a des hommes d'origine nord-africaine? Où on en est dans le monde de l'humour aujourd'hui?
Moi, je pense que, ça, c'était important d'avoir cette période où il y a eu beaucoup de personnes qui venaient d'Afrique à la télévision ou qui avaient un rapport avec l'Afrique parce que ça a donné l'idée que c'était possible. Après, ça a juste permis d'ancrer un mécanisme de c'est possible, juste d'ouverture. Et maintenant, on va avoir peut-être des prochaines vagues avec plus de précision, plus de finesse qui vont arriver parce que les humoristes sont extrêmement doués, extrêmement bons, qu'il y a plus d'entraide entre les humoristes, qu'il y a maintenant des personnes de la génération, de ma génération, qui deviennent des producteurs, qui deviennent des acteurs vraiment décisionnaires artistiquement et qui ouvrent la porte aux talents qui sont pas forcément mainstream et qui sont peut-être pas forcément la norme. Parce que je sais que j'entends partout des gens se plaindre en se disant faut vraiment être d'origine de quelque chose aujourd'hui pour faire carrière. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, moi, personnellement. C'est pas tout à fait ce que je pense. Et surtout, en tout cas, le discours que moi j'entends dans les clubs, s'il parvient à devenir mainstream, je pense que ça donnera une vision beaucoup plus variée et compliquée, mais dans le bon sens, quoi, de ce qu'est la société française. Parce que c'est très compliqué, la société française. C'est pas monolithique, c'est pas juste... Il y a des Blancs, c'est vrai, ils étaient chrétiens, c'est vrai, et puis il y a eu une arrivée un petit peu de personnes de l'extérieur, alors maintenant, c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que je te dis encore une fois, ce que tu fais avec ta manière d'être à toi et le fait de prendre un petit peu le pouvoir sur la représentation que tu as à toi d'exister et de prendre la parole et de la donner aux gens que tu veux, que toi-même tu choisis, c'est hyper précieux parce que du coup, on a une représentation différente encore et personnelle.
Merci Yacine pour ta générosité et d'avoir partagé avec nous ton expérience et ton histoire. C'est un vrai plaisir de voir qu'on a le droit à la complexité, qu'on a le droit de ne pas être que d'origine algérienne, que d'origine marocaine et qu'on peut être plein de choses à la fois et qu'il faut aussi s'ouvrir aux autres pays car on n'est pas ce qu'on croit être en France. Donc merci encore.
Avec plaisir. Merci à toi et soyez compliqués, soyez complexes.
Merci encore à Yacine Bellous. Si tu veux réagir à cet épisode, écris-moi sur les réseaux sociaux à Nanar Podcast, NA3 Podcast. Comme d'habitude, si le podcast te plaît, n'oublie pas de mettre 5 étoiles et de commenter sur Apple Podcast. C'est en montrant ton soutien et en partageant autour de toi qu'on pourra continuer ce beau projet et déconstruire ensemble nos identités plurielles. À très bientôt sur Nanar Podcast.